김종일 동지께서 조체 배
나라의 분열을 종식시키고 통일을 이루가는 데서 나서는 중요한 문제는
Les ravisseurs leur remettent des téléphones portables. Ils leur demandent d'appeler leurs proches et dès qu'ils sont en ligne, ils les torturent afin de faire monter la pression et d'inciter leur famille à payer la rançon.
Salam, salam, Radio Rena.
Bienvenue au 116 rue Albert Londres. Le terrain d'investigation des grands reporters est immense. On pourrait dire de leur lieu de travail qu'il est aussi grand que le monde. On le dirait, oui, si quelques territoires ne s'opposaient encore farouchement à la présence des journalistes. On n'y tolère les reporters que lorsqu'ils servent la propagande du despote local. La règle est simple et très brutale. C'est le cas de l'asiatique Corée du Nord et de l'Érythrée, ce petit pays d'Afrique orientale qui a pour capitale Asmara. À Pyongyang, la nord-coréenne, le tyran se nomme Kim Jong-un. À Asmara, l'érythréenne, il a pour nom Isaias Afewerki. Face à ces deux dictateurs qui dévorent leur peuple et qui empêchent tout témoignage sur leurs méfaits, il se trouve pourtant des journalistes pour extraire au compte-gouttes de ces états-prisons les informations qui constituent au fil du temps un gros dossier à charge. À force de témoignages recueillis patiemment, Michael Stank et Léonard Vincent se font les porte-parole des opprimés nord-coréens et érythréens. Michael Stank est allé plusieurs fois à Pyongyang. Après son dernier séjour, il a choisi la fiction et la bande dessinée pour exposer la réalité que masquent à peine les apparences offertes aux visiteurs. Léonard Vincent, lui, n'a même pas besoin de se rendre en Érythrée pour en connaître les chemins, les reliefs, les habitants s'y attachant et les horreurs qu'on leur inflige. Léonard Vincent et Michael Stank nous offrent d'être nos oreilles et nos yeux dans ces deux pays gangrenés par la tyrannie. Ne détournons pas leur regard, ne soyons pas sourds à leur message. Dans un instant, ils nous parleront. Vous êtes au 116 rue Albert Londres, vous êtes sur France Inter. Ce sont les échos des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Deux avions de ligne détournés par des hommes d'Al-Qaïda percutent les tours jumelles du World Trade Center de Manhattan. On connaît la suite, mais pas toute la suite, Léonard Vincent, car pendant que tous les regards sont tournés vers New York, en Érythrée, il se passe des choses que personne ne voit ou ne veut voir.
Oui, il se passe une chose unique dans l'histoire récente de l'Afrique, c'est l'incarcération et la disparition de l'ensemble des réformistes du parti unique et de l'appareil d'État érythréen, ainsi que la totalité des rédacteurs en chef et des intellectuels qui composaient, qui animaient la petite vie intellectuelle de ce petit pays. Tous les journalistes sont partis en prison. Alors quand je dis partis en prison, en général, on voit...
Une prison avec des cellules et des barreaux.
Les parloirs, la visite des familles, des photos, des lettres qui sortent. Alors là, non, c'est vraiment des oubliettes médiévales. C'est-à-dire qu'ils ont disparu depuis le 18 septembre 2001. Les rafles se sont déroulées sur 5 jours à partir du 18 septembre 2001, alors que, comme vous l'avez dit, tout le monde regardait ailleurs.
C'était délibéré de la part d'Isaias Afewerki d'utiliser ce contexte international, cet événement effroyable pour masquer cette répression.
Ceux qui connaissent Isaias Afewerki ou qui l'ont connu pendant la lutte de libération disent que oui. Alors je les crois, je pense que c'était une opportunité formidable pour frapper un coup très dur. Isaias était habitué à ce genre de manœuvre, mais jamais il n'avait frappé aussi fortement et d'une manière aussi spectaculaire. Ça lui offrait vraiment une opportunité unique qu'il ne se reproduirait pas dans l'avenir. Donc oui, c'est probablement le moment critique qui a été choisi peut-être un peu dans l'urgence, bien que ça ait été intervenu à la suite d'une longue crise qui durait depuis la paix signée avec l'Éthiopie en 2000.
Voilà, puisque on va présenter brièvement l'Érythrée. C'est un pays qui a été colonisé par l'Italie, hein, par les Italiens. On en trouve d'ailleurs encore les traces architecturales, paraît-il, dans la capitale Asmara qui a été créée par l'occupant italien, puis occupée par les Éthiopiens, les Britanniques à un moment. Et finalement, ce pays a eu son indépendance, a fini par obtenir son indépendance après 30 ans quasiment de guerre civile.
Hein, 30 ans de maquis, oui. C'est-à-dire que vraiment 30 ans de Vercors. Les petits rebelles érythréens qui étaient vraiment une poignée, une dizaine ou une quinzaine en 1961, se sont retrouvés plus de 200, 300 000 en 1991 quand le dictateur éthiopien Mengistu est tombé à Addis Abeba. Et la contrepartie de l'appui des rebelles érythréens aux rebelles éthiopiens qui voulaient faire tomber la dictature communiste était l'indépendance. Alors c'est comme ça qu'ils ont réussi après vraiment des souffrances terribles, parce que les Éthiopiens ont pendant des années pratiqué la politique de la terre brûlée, vraiment une entreprise de nettoyage ethnique d'une extrême violence contre les Érythréens, et malgré tout ils ont tenu. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le traumatisme et la sidération des Érythréens pour ceux qui sont encore au pouvoir, puisque pour eux, ce sont ceux qui ont réussi envers et contre tout à obtenir ce dont ils rêvaient.
Le libérateur est devenu le dictateur. C'est un pays de la taille du Portugal, hein, il est tout en hauteur, dans l'est du continent africain. C'est l'un des quatre états de ce qui forme ce que l'on appelle la corne de l'Afrique. Sa population est estimée à 6 millions d'habitants. Je dis bien estimée car il est difficile d'être précis compte tenu du nombre de fuyards, de gens qui quittent ou qui tentent de quitter ce pays. On dit que 3 à 5 000 Érythréens fuit ce pays chaque mois.
Oui, ça ce sont les chiffres de l'ONU, c'est-à-dire que depuis 2001, donc, les Érythréens choisissent de faire la révolution avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils s'en vont, ils quittent le pays pour aller au Soudan ou en Éthiopie, et ils se retrouvent à Lampedusa, sur nos plages, en Israël, en Égypte et ailleurs, dans des conditions après un périple absolument épouvantable.
À Lampedusa, dans le meilleur des cas, parce qu'ils peuvent se retrouver aussi au fond de la Méditerranée,
absolument,
et lorsqu'ils arrivent à passer, on les retrouve à Calais. Très souvent,
exactement,
qui essaient de passer en Angleterre. Voilà ce que sont les Érythréens. Vous avez publié, Léonard Vincent, il y a 2 ans, un récit intitulé « Les Érythréens », précisément. En page 14 de ce livre très documenté, vous avez écrit « Je veux le dire d'emblée, je n'ai jamais mis les pieds en Érythrée. Depuis ma découverte de son peuple errant, je me suis heurté à ses murs. » Alors, deux questions, elles se complètent. Comment en êtes-vous arrivé, vous intéresser à l'Érythrée? Et comment avez-vous fait pour en savoir autant sur ce pays qui semble fermé à tout ?
Alors comment je m'y suis intéressé ? C'est parce que je l'ai rencontré, je veux dire, c'est les circonstances.
C'est l'Érythrée qui est venue à vous ?
Oui, un peu, c'est-à-dire que, vous le savez, j'ai travaillé pendant 5 ans à la tête du bureau Afrique de Reporters sans frontières, et ces journalistes dont je parlais tout à l'heure avaient des visages, des familles, des noms, et ça m'a intrigué, parce que moi je suis journaliste depuis les années 90, et en septembre 2001, je travaillais dans une grande entreprise de presse au service étranger, et je n'ai rien vu, et à part les Érythréens, personne.
Vous étiez à TF1 à ce moment-là. Voilà, vous avez couvert d'ailleurs les événements du 11 septembre.
Oui, oui, absolument. Et donc, ça m'a déjà commencé par me sidérer. Donc, j'ai exploré cet aspect de notre vie contemporaine avec curiosité et puis vraiment une grande ignorance. Donc, j'ai appris à découvrir les gens et j'ai rencontré des Érythréens. Et j'ai envie de dire qu'une fois que la lumière a été faite, le peu de lumière, en tout cas un clair-obscur a été fait sur cette histoire, j'ai été sidéré. Et qu'une fois qu'on est sidéré par quelque chose comme l'histoire contemporaine de l'Érythrée, on peut difficilement s'en détacher. Je veux dire, il faudrait faire preuve soit d'une cruauté absolue ou alors vraiment d'une absence de curiosité pour ne pas vouloir creuser plus avant quelque chose qui est aussi caché et aussi masqué que l'histoire érythréenne.
Mais quand même, quand on lit votre livre, on a l'impression que vous connaissez de ce pays le moindre chemin, vous êtes capable d'en décrire l'architecture, vous connaissez la carte complète de ce pays sans y être jamais allé.
Oui.
C'est par les témoignages qui vous sont parvenus que vous avez fini par connaître ce pays à ce point-là.
Mais c'est pour ça que le livre s'appelle Les Érythréens, c'est parce que j'ai passé 3 ans, ce qui est beaucoup, beaucoup, 3 ans à rencontrer des Érythréens et à vraiment les embêter, quoi. Je leur ai posé des questions que personne ne leur avait jamais posées, puisque la plupart du temps, ils ont affaire à des fonctionnaires du HCR, à des mouchards, des policiers, des militaires, dans les camps de réfugiés. Donc on leur pose des questions, comment vous appelez, où vous habitez. Quel âge vous avez ? Moi, je leur posais des questions. Qu'est-ce que vous portiez ? Comment vous êtes parti ? À quoi ça ressemblait chez vous ? Qu'est-ce que ça sentait le matin et le soir quand vous alliez vous coucher ? Enfin, vraiment des questions extrêmement intimes pour essayer de reconstruire une réalité qu'ils avaient emportée avec eux. Un pays où on ne peut pas accéder, il peut être construit, manque de bol pour les dictateurs, par la parole de ceux qui l'ont fui. Et c'était exactement l'objet de ce livre qui s'appelle « Les Érythréens » parce que ce n'est pas un livre sur l'Érythrée, c'est un livre sur le peuple érythréen.
On considère que près de 20% des Érythréens vivent hors de leur pays. C'est comme si, rendez-vous compte, c'est comme si 13 millions de Français avaient fui la France.
Mais je vais vous dire, récemment, je parlais avec un haut fonctionnaire de l'ONU, dont je tairai le nom, et qui m'a dit que l'ambassadeur d'Érythrée à l'ONU, à New York, avait gaffé lors d'une réunion et avait admis qu'aujourd'hui, à l'intérieur des frontières érythréennes, ne resterait qu'environ 3,5 millions d'Érythréens. C'est-à-dire que près de la moitié des Érythréens vivent à l'étranger aujourd'hui. Alors, il y a évidemment les réfugiés anciens, une diaspora qui est installée depuis longtemps, mais avec les chiffres cumulés qui sont communiqués par le HCR, sur leur relevé aux frontières, on a par exemple, entre le mois d'octobre et la mi-novembre 2014, 6700 passages réussis de la frontière de gens qui se sont fait enregistrer, j'insiste. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ne se font pas enregistrer, qui disparaissent, ou qui se font kidnapper, ou qui meurent, ou qui se font attraper en passant les frontières.
Nous allons en parler. Amnesty International estime à 10 000 le nombre des prisonniers politiques érythréens. Ils sont détenus sans inculpation ni procès.
Jamais.
On n'a jamais eu l'écho d'un procès en Érythrée. Ils sont détenus dans plus de 300 lieux de détention où l'on pratique la torture. Là-bas, on pratique la crucifixion, notamment. On a coutume aussi d'enfermer les prisonniers les plus récalcitrants dans des conteneurs de marchandises, des conteneurs en acier qu'on met en plein soleil, évidemment. Les amplitudes de température sont énormes entre le jour et les nuits. En fait, on les cuit à petit feu, on peut le dire comme ça. Parmi ces centres de détention, il y en a un qui se distingue des autres. C'est la prison qu'on dit secrète, mais plus tout à fait, puisque vous en parlez en détail dans votre livre, d'Era Héro. Et voici ce que vous écrivez à son propos dans votre livre Les Érythréens. Ce sont des extraits choisis.
Pour parvenir au pénitencier, il faut prendre la route qui traverse les montagnes depuis Asmara pour descendre vers Massaoua, en passant par l'axe routier reliant les localités de Sergeka et Gatelaï. La température moyenne s'élève aux alentours de 40 degrés Celsius durant la journée. La nuit, les pierres gèlent. Trois blocs de cellules individuelles aveugles ont été isolés dans de hautes enceintes de béton. Des murs d'une épaisseur de 3,50 m séparent les chambres. Les prisonniers sont condamnés à y vivre un enfer immobile, l'angoisse éternelle d'une vie au-delà de l'esclavage, séparée à perpétuité des autres humains. Les gardes les nourrissent de 6 morceaux de pain par jour, ainsi que d'un bol de bouillon de lentilles, d'épinards ou de patates. Les jours de fête nationale, ils ont parfois droit à de la viande. Deux couvertures leur sont octroyées. L'une sert de matelas, l'autre de protection contre le froid. Les journées et les nuits passent pour les prisonniers dans le silence absolu, l'inactivité totale et l'isolement, sous une ampoule électrique constamment allumée. Avec l'application Google Earth, il est désormais facile de trouver Era Héro. Il suffit, dans l'outil de recherche, de placer son point de départ sur Filfil Érythréa. Tout cela se trouve au milieu de nulle part, entre les montagnes vertes et le désert blanc. Ils sont là.
Merci à Jean-Paul Quénesson qui a prêté sa voix à votre texte, Léonard Vincent. Ils sont là, ces prisonniers gardés au secret. Et parmi eux, il y a notre confrère, le journaliste Dawit Isaac. Son histoire est assez singulière, vous nous la résumez ?
Dawit était l'un des petits rebelles qui avait choisi le maquis contre l'occupation éthiopienne. Et dans les années 70, il s'est battu vaillamment et il a été blessé. Il a été soigné au Soudan et comme il n'était pas en état de retourner au maquis, il a choisi l'exil en Europe. Il était un petit employé anonyme qui faisait par exemple le ménage dans les bureaux la nuit près de Stockholm. Il a retrouvé là-bas sa femme, il a fait des enfants, il a vécu comme n'importe quel petit immigré qu'on connaît bien, nous, hein, les Européens. On en a plein autour de nous.
Qui vide nos poubelles.
Qui vide nos poubelles, par exemple. Et Dawit était aussi, par ailleurs, parallèlement à tout ça, un grand poète. Il écrivait des pièces de théâtre et il écrivait aussi de la poésie sur son pays, sur son expérience d'homme. Et quand il en a eu l'occasion, à la fin des années 90, quand il a vu que l'indépendance était une chose acquise et qu'il y avait beaucoup d'espoir dans son pays, il est retourné là-bas s'installer. Il a, avec quelques autres amis, des intellectuels et des journalistes comme lui, fondé un journal qu'on s'arrachait dans les rues d'Asmara, qui s'appelait Sétit, une petite rivière qui délimite la frontière. Et Sétit est devenu un lieu de débat et d'écriture majeur pour les intellectuels et les réformistes, notamment, dont je parlais tout à l'heure. Il a été emporté par la vague de rafles en septembre 2001 avec quelques autres. Il se trouve qu'il avait la nationalité suédoise, pas aussi, en plus de la nationalité érythréenne. Donc
ça ne l'a pas protégé de tout,
apparemment. Voilà, ça ne l'a pas protégé, mais au moins, en Suède, il est devenu un prisonnier emblématique. Et la presse suédoise, le gouvernement suédois, régulièrement, évoque la question érythréenne grâce à cette présence d'Awit. Voilà, d'Awit a disparu. Il se trouve qu'il a bénéficié pendant un moment d'un traitement de faveur, on va dire. C'est-à-dire qu'il pouvait aller faire soigner ses blessures et son cœur, notamment malade, il est asthmatique et cardiaque, dans l'hôpital de l'aviation. Et il était régulièrement conduit de sa cellule jusqu'à l'hôpital où il faisait des séjours. Et en 2005, un jour, il a débarqué au domicile de sa sœur, émaciée, très faible, à Asmara, et on lui avait dit qu'il était libéré. Évidemment, tout le monde s'est réjoui publiquement de la libération de Dawit. On s'est dit que c'était vraiment le moment où on pouvait espérer retrouver tous les disparus. Et puis, deux jours après, il a été de nouveau arrêté et renvoyé en cellule. Depuis, on l'a vu, notamment dans les hôpitaux, se faire soigner dans un état de plus en plus désastreux. Et je dois dire que depuis 2 ans, je n'ai plus aucun écho, moi, personnellement, de mes sources à Asmara, sur où et dans quel état est Dawit Isaak. Il est quelque part dans ce système pénitentiaire mystérieux, obscur, que l'appareil d'État a construit pour tous ceux qui avaient eu l'impudence de contester le pouvoir du dictateur.
Alors en Érythrée, il y a donc les prisonniers, il y a aussi les fuyards. Vous avez évoqué tout à l'heure les enlèvements de fuyards dès qu'ils passent la frontière vers le Soudan. Ils sont enlevés par des bédouins égyptiens très souvent, qui les emmènent dans le Sinaï à 2 kilomètres de la frontière, à quelques centaines de mètres de la frontière israélienne. On les retient là, on leur donne des téléphones portables, on leur demande d'appeler leur famille, et pendant qu'ils ont leur famille en ligne, on les torture pour essayer d'arracher une rançon. C'est une véritable industrie. Il y en a 50 000 qui sont passés par ces enlèvements, 50 000 érythréens. Les Soudanais le font maintenant aussi parce qu'ils voient qu'il y a de quoi gagner beaucoup d'argent. Les Yéménites le font, les Libyens le font, c'est-à-dire que les Érythréens sur le continent africain sont devenus une sorte de gibier monnayable, c'est monstrueux. Et je voudrais citer le film documentaire réalisé par Cécile Allégra et Delphine Deloget qui a été diffusé sur la chaîne Public Sénat le samedi 18 octobre. On l'attendait sur une chaîne de France Télévisions. Ben, apparemment, elle n'est pas programmée, mais ça peut encore changer. Le nom de ce documentaire, c'est Voyage en Barbarie, si je ne me trompe. Il n'y a donc plus de presse indépendante en Érythrée depuis le 18 septembre 2001. Fort heureusement, il reste des voix pour s'exprimer librement en tigrinya, la langue des Érythréens, grâce à une radio, Radio Erena. Radio Irena émet de Paris et on peut dire, Lénore Vincent, que vous en êtes le fondateur. Vous êtes
le co-fondateur. Il a fallu un autre fou pour cette entreprise. Ce fou s'appelle Binyam Simon. C'est un personnage, c'est un ami maintenant, vraiment un ami proche.
Une ancienne star de la radio-télévision érythréenne.
Voilà, c'était lui qui présentait le journal télévisé à 20h, contre son gré. Hein, il ne voulait pas faire ça, mais enfin, on l'avait un peu poussé. Et puis c'est difficile de dire non à son chef quand le chef est le ministre de l'Information et fils adoptif du président.
Évidemment.
Donc il l'a fait contre son gré. Et puis un jour, il a fait défection parce que tous ses amis étaient partis en cellule, torture, comme vous l'avez dit, disparition. Et puis on retient son salaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé, évidemment, pendant qu'on est en prison.
Bah, pourquoi faire ?
Donc on voulait démanteler une filière qui organisait des défections de fonctionnaires à l'étranger. Donc la solution était très simple, tout le monde au trou. Binyam a voulu échapper à ça. Il se trouvait en Japon à ce moment-là. Et donc moi, en tant que responsable Afrique à Reporters sans frontières, on est entré en contact et je l'ai aidé à faire défection et à venir en France. Et puis, Vous savez, des journalistes aussi brillants et aussi cultivés, aussi avec une profondeur de pensée, de vie comme Bignam, qui se retrouvent éboueurs, moi, ça me convient pas du tout. Ça me brise le cœur. Donc, on a essayé de trouver une idée qui permette à Bignam de retrouver son métier et de pratiquer son métier. D'autant que lui, quand on buvait des coups et qu'on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour aider son pays, il disait il faut informer les gens qui sont restés là-bas. Les gens qui sont là-bas, alors ils ont CNN, Al Jazeera et tout le reste, peut-être, mais en tout cas, on ne parle pas de l'Érythrée là, sur ces chaînes-là. Donc, il faut leur dire ce qui se passe dans leur propre pays, il faut leur parler dans leur langue. Et c'est l'entreprise auquel je me suis attaché avant de quitter Reporters sans frontières, c'est de trouver de l'argent et de permettre à Bignam de retrouver son métier. Et c'est voilà, comme ça.
Ça passe par Arabsat, on peut.
Ça passe aujourd'hui par Nilesat, puisque Arabsat a été brouillé par le régime érythréen, qu'une plainte est en cours et que le procureur de la République manifestement a dû oublier le dossier quelque part. Une plainte est en cours pour le brouillage illégal d'un service agrémenté par le CSA. Mais en tout cas, bon, il a fallu changer de satellite. Aujourd'hui, ça passe par Nilesat et d'après les témoignages de ceux qui sont partis récemment d'Érythrée, il semble que Radio RNA est un grand succès et qu'on l'écoute clandestinement partout, un peu comme on a écouté la BBC pendant l'occupation.
Nous vous retrouverons tout à l'heure, Léonard Vincent. Auparavant, nous aurons entendu Michael Stank nous parler d'une autre dictature, pas facile à couvrir journalistiquement non plus celle-là. C'est la dictature qui sévit depuis la Seconde Guerre mondiale en République populaire démocratique de Corée, autrement dit en Corée du Nord. Avant cela, offrons-nous un peu de douceur. Avec Neil Young, Needle and the Damage Done, un titre de 1972, extrait du mythique album Harvest. Neil Young.
Inter, 116 rue Albert Londres, Alain Le Gougeck.
I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Michael Stank, si Léonard Vincent est venu au journalisme après avoir suivi des études de philosophie, vous, c'est la sociologie politique qui vous y a conduit. Vous étiez à Nanterre, hein, je crois.
Oui, tout à fait.
J'ai rencontré l'un de vos condisciples qui m'a dit que vous étiez à Nanterre. On l'a vu avec Léonard Vincent à l'instant. Le dessin de l'Érythrée a basculé en 2001, quelques jours après les attentats à New York. Pour vous, Michael Stank, l'année 2001 a été fondatrice de votre intérêt pour l'Asie. C'est en 2001, en effet, que vous avez mis les pieds pour la première fois en Chine, où vous avez ensuite vécu pendant quelques années.
Oui, tout à fait. Alors, c'était un tout petit peu avant 2001, c'était même à la fin de l'année 2000, où en effet, je me suis rendu en Chine d'abord pour faire quelques reportages pour Radio France à l'époque, pour RFI et France Culture. Et j'étais parti quelques temps et puis j'ai décidé finalement de rester. Je suis resté 4 ans en effet à Pékin à ce moment-là.
Et 4 ans ensuite à Hong Kong.
Et alors je suis revenu une année en France entre ces deux voyages. Et en effet, je suis reparti à Hong Kong 4 ans cette fois-ci pour pouvoir un petit peu sillonné la région, donc pas uniquement la Chine, mais l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord. Et c'est comme ça que je suis à un moment arrivé en Corée du Nord, bien que déjà au début des années 2000, je commençais à m'intéresser à la Corée du Nord, parce qu'en s'intéressant à la Chine, on peut évidemment que s'intéresser à la Corée du Nord, qui est son voisin frontalier. Et vu les relations qu'il y a entre ces deux pays, ça, la curiosité vient assez rapidement.
Oui. Il s'est quand même écoulé 7 ou 8 années avant que, entre votre premier séjour à Pékin et votre premier séjour à Pyongyang, il faut tant de temps que ça pour obtenir un visa pour la Corée du Nord.
Alors, j'ai pas mis 7 ans pour obtenir mon premier visa en Corée du Nord, mais ma première demande a été faite en 2004-2005. J'ai eu évidemment strictement aucun retour de la part de l'ambassade nord-coréenne en France, enfin de la délégation, puisqu'il n'y a pas d'ambassade.
C'est une délégation.
Voilà, puisqu'il n'y a pas de relation diplomatique entre la France et la Corée du Nord. Puis j'ai fini par obtenir à un moment un visa en 2007, après plusieurs mois de rendez-vous au sein de cette délégation. Et quand on demande un visa en Corée du Nord, on ne demande pas une date, on ne demande pas d'aller en Corée du Nord pour couvrir telle ou telle chose. On obtient de la Corée du Nord un visa en fonction d'un événement qui a lieu dans le pays. Donc s'ils ont envie de vous faire participer, de vous faire couvrir cet événement, ils vous donnent à ce moment-là un visa, et ils vous donnent le nombre de jours pour obtenir ce visa et le nombre de jours dans lesquels vous allez rester dans le pays. Et donc en 2007, c'était avec RFI à l'époque, j'avais eu 4 jours. 4 jours pour aller couvrir à l'époque les 60 ans du Parti du Travail, qui était donc, qui est toujours d'ailleurs, le parti au pouvoir dans ce pays. Vous imaginez bien qu'en 4 jours en Corée du Nord, vous ne voyez pas grand-chose et vous suivez évidemment les festivités organisées pour les 60 ans de ce parti.
C'est une visite guidée. C'est une accréditation finalement que vous obtenez plus qu'un visa. Hein,
exactement.
Pour être très clair. Alors la Corée du Nord, c'est presque 25 millions d'habitants, plus d'un million de soldats, 5 fois plus de réservistes au moins. L'arme nucléaire, des menaces incessantes à l'encontre du voisin et frère sud-coréen. Vous avez rendu visite aux Nord-Coréens à 3 reprises en 2007, 2012 et 2014. C'était au printemps dernier, la dernière fois. Quand on est étranger à ce pays, journaliste de surcroît, que peut-on voir d'autre que le décor et la mise en scène que l'on vous destine?
Alors l'intérêt d'y aller plusieurs fois, c'est de pouvoir quand même s'imprégner d'un quotidien évidemment encadré, évidemment fait de propagande, mais de pouvoir voir aussi une évolution du pays, une évolution du régime et surtout une évolution économique. Et c'est ce qui est le plus frappant entre mon premier voyage en 2007 et mon dernier voyage en 2014, c'est qu'en 7 ans, malgré tout, même si évidemment il y a des choses qui sont immuables comme la dictature, comme la propagande, comme la communication politique et comme la communication à l'égard des étrangers et pour les étrangers, à l'intérieur du pays, il y a une évolution économique. Alors elle est petite, elle est pas très importante, mais on la voit dans la rue et on la voit en discutant avec les seules personnes avec qui vous êtes autorisé de discuter, c'est-à-dire avec vos guides ou avec les personnes que vous avez le droit d'interroger, c'est-à-dire des gens triés sur le volet.
Mais ce ne sont pas les guides qui vous nourrissent de toutes les informations que vous connaissez maintenant, que vous avez maintenant en votre possession sur la Corée du Nord.
Non, bien sûr, mais le premier contact avec la Corée du Nord se fait par le guide qui vous encadre et vous escorte pendant la durée de votre séjour. Évidemment, après, il s'agit d'aller rencontrer ce que j'ai fait, des réfugiés nord-coréens qui sont en général en Corée du Sud, et il y en a beaucoup, et qui, eux, vous permettent de mieux comprendre le quotidien. Parce qu'évidemment, lorsque vous êtes en Corée du Nord, vous avez beau y aller 2 fois, 3 fois, 10 fois, comment comprendre un pays lorsque, d'abord, vous ne sortez pas énormément de la capitale, Pyongyang. Lorsque vous sortez de la capitale, tout ça est bien encadré. Vous ne pouvez pas choisir un village, vous ne pouvez pas choisir une ville. Donc forcément, tout est encadré. Donc comment connaître le quotidien quand le discours vient d'un cadre du régime qui est votre guide? Donc la seule solution, c'est d'aller voir, en effet, des réfugiés nord-coréens qui ont fui et qui, eux, peuvent vous donner ce qu'il y a derrière cette propagande.
Et si on veut avoir une idée de ce qu'est Pyongyang, ben sur Internet, moi je l'ai fait hier, on regarde pendant une quinzaine de minutes un film tourné par un Singapourien avec une GoPro sur une voiture. Il traverse la ville de Pyongyang et c'est phénoménal, avec très peu de voitures, mais des artères qui font parfois
8 voies.
deux fois 4, oui. Mais on peut toujours prévoir. Hein. Peut-être qu'un jour, chacun aura sa voiture en Corée du Nord. Alors cette année, les Nations Unies ont dénoncé dans un rapport les atteintes répétées aux droits humains en Corée du Nord. Extrait d'un journal de France Culture le 17 février dernier.
C'est un document accablant pour le régime de Pyongyang. Selon la Commission des Nations Unies sur la Corée du Nord, le pouvoir communiste s'est rendu coupable de nombreux crimes contre l'humanité depuis un demi-siècle. La Commission en appelle à la Cour pénale internationale pour juger ces crimes imputés au régime nord-coréen, Claude Guibal.
Famine délibérée, travail forcé, exécution, viol, avortement, infanticide, 372 pages. Le rapport de l'ONU n'est qu'un long catalogue d'atrocités. Ses rapporteurs y font passer un message essentiel. Désormais, la communauté internationale ne pourra plus se cacher. Elle ne peut plus dire qu'elle ne savait pas.
Famine délibérée, dit ce rapport, entre 1994 et 1998, entre 900 000 et 2 millions de Nord-Coréens sont morts de faim. Et pour cause il y a le dogme de l'autosuffisance alimentaire.
Oui, notamment. ce qu'on appelle l'idéologie du Juche. Ouais. En effet, et qui trône d'ailleurs au milieu de Pyongyang, il y a une tour qui s'appelle la tour du Juche, donc qui prône l'autosuffisance militaire, alimentaire, économique, commerciale et politique, bien sûr. Et en effet, qui est le fondement idéologique de la Corée du Nord. Pour ce qui est des atteintes aux droits de l'homme, bon, on les découvre en effet aujourd'hui, mais enfin, bon, on le sait depuis évidemment très très longtemps. On n'a pas besoin d'attendre ce rapport accablant pour le savoir. Il suffit de discuter avec des réfugiés nord-coréens d'aujourd'hui ou d'hier ou d'il y a 15 ans, on sait qu'en effet, il y a des atteintes extrêmement dures, extrêmement violentes aux droits de l'homme dans ce pays. Tous les réfugiés que j'ai rencontrés ont une histoire à raconter. En revanche, ces réfugiés ne sont pas forcément des réfugiés politiques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les réfugiés qui fuient la Corée du Nord sont des réfugiés économiques et surtout des réfugiés qui cherchent soit un emploi, soit à manger. Avant de fuir une dictature, avant de fuir un régime politique, lorsqu'on discute avec eux, c'est surtout la faim et l'emploi. Évidemment, la faim et l'emploi sont liés au régime politique. Donc forcément, il y a en permanence un lien. C'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas ressentir lorsqu'on est à l'intérieur du pays. Lorsqu'on discute avec les guides ou avec des familles modèles qu'on nous fait visiter dans des appartements de 100 mètres carrés en plein centre de Pyongyang, évidemment, ce sont des gens qui sont les plus fidèles au régime. Donc c'est très difficile d'avoir une parole libre.
Ouais, c'est un peu la politique de l'appartement témoin à la Corée du Nord. Hein. Sans arrêt, on vous montre des choses, mais qui sont parfaitement fabriqué pour vous,
l'appartement, l'appartement témoin, même la station de ski témoin, par exemple.
Oui, il y en a une qui est complètement vide, mais qui vaut largement une station alpine française.
Voilà, et pour raconter peut-être juste une petite anecdote sur cette, mais qui est intéressante sur cette station de ski. Lorsqu'on est allé visiter cette station de ski, qui est aujourd'hui montrée comme vraiment l'aboutissement d'une réussite par les autorités nord-coréennes, il n'y avait strictement personne sur les pistes de ski, bien entendu, et j'ai fait la réflexion à mon guide en lui disant, mais c'est étonnant, nous sommes en février, c'est la période de ski, il y a très peu de skieurs. Il m'a dit, si, si, il y en a, vous verrez, vous verrez. Et en effet, trois quarts d'heure après cette réflexion, il y avait une trentaine de skieurs qui arrivaient sur les pistes de ski, avec des habits de skieurs flambant neufs.
Et pour ne pas faire un énième papier sur la visite guidée nord-coréenne et ses absurdités, Michael Stank, vous avez choisi de scénariser vos séjours à Pyongyang et d'en faire une bande dessinée avec le concours brillant, il faut le dire, du dessinateur Alexis Chabert. Cette BD intitulée La Faute, une vie en Corée du Nord, est publiée chez Delcourt. Comment cette idée vous est-elle venue ?
Elle est venue d'une frustration d'avoir été plusieurs fois en Corée du Nord, et notamment les deux dernières fois pour filmer pour la réalisation d'un documentaire, et de s'apercevoir bien évidemment qu'il est impossible de filmer autre chose que ce que les autorités veulent bien vous montrer. Et c'est vrai qu'au retour de ce deuxième voyage, celui de 2012, dans l'avion, je me suis dit, mais comment je peux expliquer, raconter autrement que par des images officielles ce pays que je vois, que j'ai vu, que j'ai visité plusieurs fois, sans tomber dans, en effet, uniquement de la propagande. Et bon, il se trouve que j'aime beaucoup la bande dessinée documentaire, et je me suis servi en fait du dessin pour justement raconter un peu les coulisses, en fait, en quelque sorte, de ce documentaire. Et c'est pour ça que j'ai fait appel donc à Alexis Chabert pour essayer de raconter sous forme de docu-fiction. C'est-à-dire qu'avec une intrigue que j'ai inventée, celle de la perte d'un badge à l'effigie des grands leaders qui est porté par chaque citoyen sur le cœur, mais en me mettant en scène pour raconter les coulisses de ce documentaire et en prenant tous les dialogues que j'avais pu avoir avec les uns et les autres sur place, c'est-à-dire avec soit des familles modèles, soit avec le guide, et d'essayer d'en ramener vraiment les coulisses d'un documentaire. Et ça donne donc.
Voilà. Et ce documentaire Corée du Nord, la grande illusion, devrait être programmé par par France 5 au mois de janvier. Donc,
janvier ou février bientôt.
Moi, je me demandais un peu, en voyant ce documentaire, puisque j'ai pu le voir, et en lisant la bande dessinée, quelle était la part du réel et la part de la fiction dans votre bande dessinée. J'ai vu que la part du réel était très, très importante. Voilà, le petit fil fictif, lui, il est très mince. Il permet seulement d'humaniser un petit peu cette histoire. Mais c'est très bien, c'est très intéressant. Moi, je me permets de vous le dire publiquement. Est-ce que vous avez reçu des pressions de la part des représentants de Nord-Coréens en France depuis que vous avez sorti cette bande dessinée et avant la sortie de la diffusion de ce documentaire?
Lorsque je suis allé en Corée du Nord en 2012 et en 2014, il s'agissait d'y aller officiellement, bien entendu, avec l'idée de faire un documentaire. Donc les autorités nord-coréennes étaient au courant de ma volonté de faire un documentaire. Bien évidemment, sans savoir exactement ce qu'il y aurait dans ce documentaire, en tout cas du point de vue des autorités nord-coréennes. Et j'avais demandé aux autorités nord-coréennes de pouvoir filmer les nouvelles infrastructures du pays, mises en place par le président Kim Jong-un, ce qui était un moyen en fait d'accéder à la Corée du Nord, puisqu'évidemment, si vous dites aux autorités nord-coréennes que vous souhaitez aller en Corée du Nord pour raconter ne serait-ce que le quotidien des Nord-Coréens, ça ne les intéresse pas. Et évidemment, ils ne vous envoient pas dans leur pays. En revanche, si vous leur dites que vous allez en Corée du Nord pour parler de l'arme nucléaire, de la puissance nucléaire, ça, ils acceptent bien volontiers. Et donc, à l'issue de ces deux voyages, j'ai fait donc ce documentaire, qu'ils attendent avec impatience, mais j'ai également réalisé cette bande dessinée. Et en effet, bien entendu, je dirais pas subi des pressions, parce que ça reste cordial, mais ferme. Mais,
on ne vous lâche pas trop quand même. Hein,
mais régulièrement, les autorités nord-coréennes, en effet, m'appellent pour me demander...
On a dû en acheter quelques exemplaires.
J'ai été convoqué suite à la bande dessinée par les autorités nord-coréennes à Paris. Je n'étais pas obligé de répondre à la convocation, mais j'ai préféré y aller puisqu'ils avaient décidé d'annuler un certain nombre de visas pour d'autres personnes. Et donc, j'ai voulu un peu dégonfler cette histoire de bande dessinée. Et en effet, le diplomate qui m'a reçu m'a mis en garde et m'a dit que de toute façon, la bande dessinée avait été achetée en plusieurs exemplaires à destination de Pyongyang pour une analyse politique.
Allons bon. Alors, on entend les témoignages dans votre documentaire, qui sera donc diffusé sur France 5 au mois de janvier. On entend les témoignages de Nord-Coréens qui ont fui leur pays via la Chine et qui se trouvent maintenant en Corée du Sud. On entend notamment le récit d'une femme qui fut officier dans l'armée nord-coréenne. Elle commande devant vous les images d'un défilé militaire au pas de loi. Et là, on apprend une chose étonnante à propos de cette façon de marcher, le pas de loi.
C'est une technique de défilé que Kim Il-sung utilisait déjà lorsqu'il a combattu les Japonais. Ça sert à impressionner l'ennemi. Comme on marche en sautillant et en levant les jambes très haut, l'estomac est malmené. Quand on est à l'entraînement, on nous demande de mettre deux ceintures de cuir serrées sous l'estomac. Ces deux ceintures font remonter l'estomac et c'est très douloureux.
Eh bien, quand vous verrez les soldats nord-coréens défiler maintenant au pas de loi, vous saurez qu'ils ont l'estomac au bord des lèvres et deux ceintures de cuir pour tenir tout ça. C'est quand même assez phénoménal. Moi, j'ai découvert ça.
Vous voyez, c'est ce qui est intéressant, c'est que comment savoir... Moi, j'en ai vu des défilés à Pyongyang, des défilés militaires. En effet, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant et ça vous hérisse le poil. Mais comment savoir ce qu'il y a derrière ? Quand vous avez personne pour vous l'expliquer sur place, comment savoir ce que signifie un défilé militaire pour un jeune Nord-Coréen qui a 18-20 ans? L'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre de réfugiés et donc d'anciens militaires qui avaient participé à ces défilés pour qu'ils nous expliquent ce type d'anecdote, mais qui dit tout du régime. Et l'idée, c'était d'aller faire ça dans le domaine de l'éducation, dans le domaine militaire, dans le domaine du social, pour rencontrer des gens à qui je pouvais montrer des images officielles et qui pouvaient vraiment décrypter ce qu'il y avait derrière.
À propos de la Corée du Nord, Mikael Stank, on a coutume de dire que c'est une dictature totale, que le contrôle de la population y est total. C'est pas tout à fait juste, puisque dans votre bande dessinée, on découvre par exemple qu'il y a une consommation de drogue, de méthamphétamine en Corée du Nord. C'est juste ça ?
Oui, tout à fait. Il y a une bonne partie de la population, notamment du nord de la Corée du Nord, et notamment des hommes qui sont sous méthamphétamine pour une raison très simple, c'est qu'ils le prennent comme un coupe-faim aussi.
Ça vient de Chine. Hein.
Ça vient de Chine. Et il y a énormément d'hommes qui sont sous méthamphétamine, et c'est très facile de se procurer de la méthamphétamine en Corée du Nord, bien sûr pas pour les étrangers, mais pour la population nord-coréenne. Il y a une réfugiée justement qui me racontait qu'elle en vendait sous forme en disant que c'était un médicament comme un autre, et elle vendait des méthamphétamines à beaucoup, beaucoup de personnes.
On y achète aussi, alors que c'est interdit, des DVD sud-coréens voir les séries, notamment les séries télévisées, et on voit un peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière quand même, hein.
Oui,
la différence avec le discours officiel.
Oui, et puis alors l'histoire des DVD, c'est très intéressant parce que c'est des DVD pirates qui transitent par la Chine, et que en effet sous le manteau des Nord-Coréens réussissent à se procurer et à vendre sur des marchés, au marché noir, et c'est extrêmement dangereux puisque si une personne se fait arrêter en possession ou en train de regarder une série sud-coréenne, elle risque évidemment la prison.
Il y a beaucoup de camps de prisonniers aussi où la torture est pratiquée, évidemment, avec beaucoup de monde dedans. En Corée du Nord. Quoi qu'il en soit, ce pays est surtout incarné par l'image de cette présentatrice de télévision qui pleure en direct la mort de Kim Jong-il. Ça fait presque 3 ans, c'était le 17
décembre 2011. 위대한 용도자 김정일 동지께서 주체 100 2011년 12월 17일 8시 30분에 Bigger Battalini, Mini Money, Mo and Flower, you're the chosen one.
And Free, c'était Alt J.
116 rue Albert Londres, Alain Le Gougec.
Le rôle des journalistes est très important. Et c'est pour ça qu'on attache une très grande importance à votre documentaire que vous allez faire de notre pays. On espère que vous allez faire un documentaire avec les explications que vous avez entendues de notre part et être très objectif et équitable.
Bien voilà, Michael Stank, cela rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'était l'une de vos guides à Pyongyang lors de votre dernier séjour, peut-être. Oui. Et c'est dans votre film documentaire, Corée du Nord, La Grande Illusion. Elle vous donne une leçon de journalisme.
Oui, même de déontologie, puisque derrière ça, il y a vraiment une volonté de leur part de m'expliquer ce qu'est le journalisme et ce qu'est la déontologie. Du point de vue nord-coréen, c'est-à-dire d'être équitable. Le problème, c'est qu'est-ce qu'être équitable pour le régime nord-coréen ? C'est de donner la parole aux gens qu'on a rencontrés sur place, donc qu'on nous a fait rencontrer. Et lorsqu'on donne la parole, évidemment, à des réfugiés, par exemple, les autorités estiment qu'on n'est pas équitable et qu'on est en effet hors déontologie. C'est ce que m'ont expliqué les autorités nord-coréennes à Paris, c'est ce que m'a expliqué cette jeune fille.
Qui parle un français impeccable, d'ailleurs. Oui. Léonard Vincent, l'objectivité, on a entendu ça aussi, il n'y a pas très longtemps, dans la voix de l'ambassadrice d'Érythrée à Paris, qui nous disait qu'avant de dire qu'Isaias Afewerki était un dictateur, il fallait peut-être s'en rendre compte par soi-même. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de visa pour travailler là-bas.
Ils sont habitués de ça. Les leçons de journalisme, de déontologie, formidable. C'est une habitude. Mais le discours critique qu'a le régime vis-à-vis de la presse ou de la diplomatie internationale est totalement incohérent et irrationnel. Je veux dire, c'est des gens qui ont très bien construit leur discours pour leur propre peuple, mais qui racontent un peu n'importe quoi, qui mentent aussi ouvertement aux diplomates internationaux. C'est très difficile de gérer ce régime parce que le président peut vous regarder les yeux dans les yeux, de chef d'État à chef d'État, et vous dire « oui, je vais faire ça, je m'y engage », faire une conférence de presse en disant qu'il va faire un truc, et puis il ne le fait jamais. Il y a un an, il a expliqué qu'il allait lui-même écrire la Constitution.
Constitution, on l'attend toujours. Il n'y a pas de gouvernement, il est chef de l'État, chef des armées, pas de Parlement, de pas de Constitution. Il chef de tout. Est-ce que vous avez subi des pressions, vous, Léonard Vincent, à propos de l'Érythrée ?
Moi, je ne subis pas des pressions.
On vous traite d'agent de la CIA, déjà.
Voilà, je subis un harcèlement de la part des partisans du régime, sur Twitter, sur Facebook. On espionne mon Facebook. Le moindre petit commentaire, la moindre petite chose personnelle que je mets, elle est utilisée, amplifiée, détournée sur les sites internet pro-gouvernementaux. Mais moi, je subis pas beaucoup de pressions. Mais vous allez probablement recevoir, sinon un courrier, ou moins peut-être un coup de fil de l'ambassadrice Anna Simon, qui va vous expliquer que l'Érythrée était occupée par l'Éthiopie et que vous n'en avez pas parlé parce que vous êtes vous-même un représentant des groupes d'intérêts spéciaux de la CIA, etc. Enfin bon, tout le délire habituel. Il y a des lettres, là, Arte a reçu pour la diffusion du film La torture au bout du fil de Keren Shiaou, le film israélien sur Meren et Stefano, sur les otages du Sinaï. Arte a reçu une lettre de 3 pages de l'ambassadrice. J'imagine que le Public Sénat aussi a reçu les protestations officielles de l'ambassadrice d'Érythrée. Donc,
voilà.
Et puis, la pression, elle se fait socialement, c'est-à-dire que je suis tout seul avec mon blog et mon sujet. Et voilà, je ne pèse rien face à la puissance d'un État. Donc.
Et quel est le comportement des autorités françaises et des autorités européennes vis-à-vis du dictateur érythréen, et puis on le verra avec Michael Stank, vis-à-vis du dictateur nord-coréen ?
Alors il y a eu 3 moments, il y a eu 2001 où tout le monde s'est un petit peu fâché, quelques mois, le temps de retirer les ambassadeurs européens d'Asmara, et puis de retourner là-bas parce qu'il fallait bien discuter quand même. Ensuite il y a eu une période d'indifférence, et puis quand les Érythréens ont commencé à arriver en masse sur les plages de Lampedusa ou à Malte, et ont commencé à se grouper à Calais et ailleurs, ont commencé... En résumé, à poser un problème à la politique européenne, eh bien, on a commencé à reprendre langue avec ce régime. Et aujourd'hui, on est sur la voie de la normalisation. Les diplomates érythréens circulent librement en Europe. Le président est venu il y a quelques années et a, dit-on, même mangé une pizza dans Paris avec un rebelle djiboutien qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Voilà, on est en voie de normalisation. On va probablement l'Union européenne, puisqu'on arrive à la fin du plan quinquennal d'aide au développement de l'Érythrée, qui représentait environ 200 à 250 millions d'euros sur 5 ans. L'Union européenne va doubler cette aide l'année prochaine. Le ministre des Affaires étrangères était à Bruxelles la semaine dernière. C'est un régime comme un autre avec qui on doit parler parce qu'il fait partie du problème et donc il doit faire partie de la solution. Enfin bon, on connaît la musique.
Nos relations avec la Corée du Nord, Michael Stank ?
Alors il y en a très peu, puisqu'il n'y a pas de normalisation, dans le sens où il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux pays. En revanche, il y a donc une délégation nord-coréenne à Paris, et il a été ouvert il y a 3 ou 4 ans, il me semble, une délégation française à Pyongyang avec un diplomate français qui est en poste seul à Pyongyang. L'idée étant pour les autorités françaises d'essayer Il y a des discussions, alors tout le monde n'est pas d'accord, pour essayer de normaliser en effet ces relations, puisque la France et la Croatie, ou la Slovénie, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, sont les deux seuls pays européens à ne pas avoir d'ambassade en Corée du Nord. Tous les autres pays européens ont une ambassade. Donc, c'est posé la question au sein des différents gouvernements français depuis des années de savoir s'il fallait ou pas ouvrir une ambassade à Pyongyang. Ça fait débat, puisque la question c'est de savoir est-ce qu'on ouvre pour essayer d'être présent quand même dans le pays et peut-être de participer à une certaine ouverture, au moins économique et avant tout même économique, ou bien est-ce qu'on coupe tous les liens? La question n'est pas tranchée. Aujourd'hui, en termes de presse, il y a le bureau d'AP qui est présent à Pyongyang, évidemment sous haute surveillance des Nord-Coréens. L'AFP est en voie d'ouvrir apparemment un bureau à Pyongyang. Ça sera la seule possibilité pour les Français d'avoir une information, mais entièrement contrôlée, bien sûr, par le régime.
Vous pensez que vous y retournerez à Pyongyang après tout ça, Michael Stank?
Je ne sais pas.
Travaillez sur quoi, là, actuellement?
C'est une question, juste pour répondre à cette question, c'est une question qu'il faudrait poser aux autorités nord-coréennes. Je pense que les autorités nord-coréennes n'ont pas sont capables de me renvoyer s'ils ont envie et me donner un visa pour la Corée du Nord. La question est de savoir si moi je vais accepter d'y aller dans ces conditions.
Mmh. Voilà. Et sur quoi travaillez-vous? Votre projet professionnel?
Sur des documentaires en Asie, notamment en Chine.
Toujours l'Asie. Léonard Vincent, vous avez publié cette année un roman, votre premier roman aux éditions Équateur. Athènes ne donne rien, alors ça se passe en Grèce. Vous avez quitté la dictature pour vous retrouver dans le berceau de la démocratie. Il y a quand même un peu d'érythréen dedans, il y a un soupçon d'érythrée dedans. Et là, je crois que vous travaillez sur un prochain livre d'ailleurs.
Oui, un roman aussi, parce que je veux dire, au terme de mon voyage solitaire avec les Érythréens, je me rends compte, et ce que disait Michael tout à l'heure sur la BD et sur la justification de pourquoi il a fait une BD plutôt qu'autre chose, je trouve ça très intéressant.
Ça se développe hein, d'ailleurs, la bande dessinée de l'actualité.
Je trouve que pour parler de situations comme en Érythrée ou en Corée du Nord, ou peut-être d'autres aussi, la littérature, en tout cas la culture, le travail artistique est extrêmement utile, et c'est vraiment, on atteint les frontières du journalisme pour passer, basculer dans quelque chose où l'expression personnelle et la profondeur qui est induite par l'utilisation des outils artistiques est vraiment très fort et important, et permet de rentrer dans la complexité, dans le côté double visage aussi parfois de situations comme la Corée du Nord ou l'Érythrée. Je veux dire, c'est jamais aussi simple que ça, évidemment. Ce sont des dictatures, des despotismes, mais c'est plus compliqué, il y a des gens qui le soutiennent, et puis même ceux qui s'enfuient, ils sont parfois encore... Voilà. Donc la littérature permet ça, donc je prépare un grand roman sur l'Afrique que j'ai connue, et notamment sur l'Érythrée, et ce sera probablement mes adieux à ce dossier.
Et on se dit quand même l'année prochaine à Asmara, soyons positifs.
Oui, ouais. Inch'Allah, comme dit l'autre.
C'est un triste anniversaire qui se profile cette semaine. Mardi, on sera sans nouvelles de Razan Zeytouneh. Depuis un an tout juste, cette courageuse avocate et journaliste syrienne s'est mise en tête de recenser toutes les exactions commises dans ce pays, tant par le régime que par les opposants depuis mars 2011. En créant à cet effet un centre de documentation, elle est devenue l'une des sources d'information parmi les plus fiables de Syrie pour les médias étrangers qui ne parviennent plus à y travailler. Son engagement lui a valu en 2 ans plusieurs importantes distinctions. Elle a été menacée, elle n'a pas choisi l'exil mais la clandestinité, et afin de poursuivre son action, elle a tenté de se cacher dans la ville de Douma près de Damas. C'est là que le 9 décembre 2013, après donc un an mardi, des hommes ont enlevé Razan Zeytouneh, son mari et deux de leurs amis. Et depuis ce jour-là, on n'a plus de nouvelles et on ne sait toujours pas qui sont les ravisseurs, les sbires de Bachar al-Assad ou les islamistes. Avant de clore cette émission, une pensée pour Georges Janssen, cet ex-grand reporter de France 2, ou plutôt Antenne 2, s'est éteint hier. Il avait 73 ans. En mars 86, il avait été enlevé au Liban avec Philippe Rochot, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Il avait été libéré au bout de 3 mois. Une pensée enfin pour notre confrère, le photojournaliste Luc Sommers, tué hier comme le travailleur humanitaire sud-africain Pierre Corky, alors que des commandos américains tentaient de le libérer. Il était otage d'une branche d'Al-Qaïda depuis septembre 2013. Luc Sommers avait 33 ans. 116 rue Albert Londres s'achève. Je vous remercie, Léonard Vincent et Michael Stank, d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Christine Kern m'a aidé à préparer cette émission. Olivier Bétard en a assuré la réalisation. Jean-Baptiste Audibert, la mise en musique à la console technique. Aujourd'hui, c'était Ronan Mahé. Et voici Soro Solo et Vladimir Cagnolari. Ils entrent dans le studio pour nous présenter le menu de l'Afrique enchantée à venir, juste après les informations de 17h. Vlad, qu'est-ce que vous nous proposez? Un peu de musique.
Alors, on va faire de la musique. On va aller fouiller dans nos malles à la recherche de vinyle, de musique qu'on trouve.
Les malles à trésors.
Voilà, nos trésors à nous, des disques vinyles. Il y a pas mal de musiques africaines qui n'ont jamais été rééditées autrement que sur les premières galettes. Et à chaque fois, ces vinyles, c'est l'occasion de rentrer dans un bout d'histoire. Donc on va par exemple s'intéresser à la visite de Louis Armstrong au Congo, en pleine guerre, juste après l'indépendance de ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC.
Et notre vieux père à tous va danser dans le studio, comme d'habitude.
Danser. On va aller faire un tour chez Akorogo pour retrouver mes bons vieux vinyles, va.
Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver 116 rue Albert Londres sur franceinter.fr, et surtout, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la faire connaître sur les réseaux sociaux. Faites du bruit pour le 116.
Exact. Thank you.